Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez sur RTM 33. Emmanuel avec vous dans Mille et une vies. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eric Correa. Bonjour Eric.
Bonjour.
Alors Eric, vous êtes depuis quelques années maintenant, on va dire, infirmier. Et plus précisément, depuis 92, infirmier anesthésiste.
C'est ça.
Alors vous venez de nous parler un petit peu de votre parcours. On va commencer du coup par cette formation médicale. Plus jeune, vous avez toujours rêvé d'être dans le milieu médical ?
Absolument pas. D'abord, c'est une formation, ce qu'on appelle paramédicale. Oui. Non, j'ai fait un bac D, et puis après j'ai fait un an de fac de sciences éco à Clermont, et où je sortais du bac et de chez moi, je me retrouvais à un appartement, et en fait j'ai fait une année sabbatique, quoi, parce que j'ai fait la fête pendant un an. Et puis c'est ma maman qui m'a inscrit d'office, parce que c'était des formations courtes, où on pouvait vite devenir autonome, et puis voilà comment je me suis retrouvé infirmier, et je ne regrette absolument pas. Mmh. En fait, c'était fait pour moi, et puis j'ai exercé pendant 2 ans, et après j'ai passé le concours d'école d'anesthésie de 2 ans, donc en bac plus 5, et je suis aujourd'hui, depuis 1992, infirmier anesthésiste diplômé d'État.
Mmh. Alors c'est vous du coup qui endormez les patients qui vont être opérés, c'est cela ?
Oui, avec le médecin anesthésiste, hein, c'est un binôme médecin anesthésiste, infirmier anesthésiste, et on endort les patients, mais pas que, on les surveille pendant l'anesthésie, puis après on les réveille.
Mmh, c'est mieux.
Parce que c'est mieux, oui, effectivement, donc voilà, c'est un métier à risque, un métier important, très technique, mais où on doit prendre, justement oublier la technique pour prendre toute la dimension humaine en compte. Voilà, donc c'est un métier que j'aime en tous les cas.
Mmh. Oui, et puis le contact, j'imagine, avec les patients aussi, c'est très important.
Bien sûr.
Qu'ils aient votre confiance sans vous connaître d'ailleurs.
Oui, on peut pas faire ce métier-là sans aimer les gens, c'est évident. Donc voilà, et puis ils nous confient leur vie, et paradoxalement, quand les gens vont se faire opérer au bloc opératoire, ils ont beaucoup plus peur de l'anesthésie que de la chirurgie, même si parfois ils se font opérer de choses qui sont graves, parce qu'ils ont toujours peur de ne pas se réveiller. Donc on doit discuter, leur expliquer ce qui va se passer, comment, et prendre cette dimension en compte. Voilà, cette angoisse-là, elle doit être prise en compte, en tous les cas, c'est clair.
Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se pratique, parce que bon, on a tous eu des petites anesthésies dans nos vies.
Alors, il n'y
a pas forcément cet accompagnement.
Ouais. Si, il y a toujours, il n'y a pas de petite anesthésie.
Ouais, je parle de la
durée.
La
mais en fait, chaque anesthésie est à un risque, donc effectivement, qu'elle dure un quart d'heure, 20 minutes, ou qu'elle dure 1h30, 3h ou 4h, donc voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de petite anesthésie, mais oui, il y a cet accompagnement. Alors parfois, les patients ne s'en rappellent pas toujours, parce qu'on a des produits anesthésiques qui sont des produits amnésiens, où il y a des amnésies antérogrades, rétrogrades, donc ils ne se rappellent plus. Mais oui, il y a cette prise en charge, bien évidemment, parce que c'est une prise en charge dans toute la dimension de la personne.
Mmh. On parle souvent de l'ambiance qu'il y a dans les blocs, justement, quand les malades descendent. Hein. On parle aussi on y est passé aussi, forcément. C'est important, j'imagine, la cohésion, l'ambiance.
Oui, c'est très important.
Pour accueillir les patients, les futurs hospitalisés.
Mais une vie, je dirais une vie professionnelle, quelle qu'elle soit, elle est très importante, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps au travail, donc autant que ça se passe le mieux possible avec les collègues. Mais là, effectivement, c'est une équipe. Hein, quand on prend en charge un patient, il y a toute la partie anesthésie, la partie chirurgicale, la partie après en salle de réveil, ce qu'on appelle la salle de soins post-international. Oui, c'est multidisciplinaire et ça doit être rigoureux. Ça peut être décontracté, mais en tous les cas rigoureux. Donc c'est très important. L'ambiance, elle est effectivement, elle doit être bonne.
Mmh. Alors des années après avoir passé vos concours, vos examens, c'est toujours un métier qui vous passionne. Est-ce qu'il y a du renouveau ? Est-ce que vous faut se renouveler ?
Ah oui, oui. C'est d'abord, faut savoir que dans nos règles professionnelles, on a l'obligation de faire la formation continue, de se tenir au courant effectivement d'évolution, à la fois des techniques, mais aussi des produits, des médicaments que l'on utilise en anesthésie et des nouveaux protocoles qu'il peut y avoir. Donc, dans nos règles professionnelles, on doit faire des congrès régulièrement pour se tenir au courant. Voilà, et puis après, sur l'exercice aussi du métier, moi j'ai exercé en bloc opératoire, j'ai exercé en SAMU, SMUR, aux urgences, en réanimation, donc on peut tourner sur différents services. Mais là, depuis, je veux dire, une quinzaine d'années, je fais que du bloc, mais ça me plaît toujours autant, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Alors après, j'ai exercé en hôpital public, maintenant en intérim, d'une autre manière. Ça permet de voir aussi d'autres têtes, c'est important, d'autres techniques, d'autres façons de travailler, d'autres approches.
De bouger davantage aussi.
Voilà, de bouger aussi, parce que c'est bien, c'est enrichissant. Il faut essayer de faire en sorte que, à la fois, le métier, effectivement, nous plaise, mais les conditions dans lesquelles on l'exerce nous vont bien aussi.
Bon, mais on vous sent épanoui dans votre métier, mais je crois qu'il n'est pas le seul, c'est-à-dire que vous avez plusieurs cordes à votre arc, puisque vous
alors, j'ai qu'un métier, j'ai qu'un métier, ça fait un anesthésiste, mais j'ai aussi un engagement.
D'accord.
Je ne confonds pas, parce qu'effectivement, je suis élu, donc élu de la République, j'étais conseiller municipal de la ville de Guéret, je suis toujours, j'étais adjoint au maire en charge de la culture à Guéret pendant 2 mandats, et maintenant, je suis président de la communauté d'agglomération du Grand Guéret, dans la Creuse, c'est 30 000 habitants, et j'ai été aussi, de 2016 à 2021, conseiller régional Nouvelle-Aquitaine, donc je venais à peu près toutes les semaines à Bordeaux, où j'étais en charge de la filière, ce qu'on appelle les économies créatives, c'est-à-dire toute la filière cinéma, la filière livre, la filière musique et l'art contemporain, l'art visuel. Voilà. Et je peux dire que nous avons une région Nouvelle-Aquitaine très riche
et
dynamique d'acteurs culturels. Voilà. Alors dynamique, bien paradoxalement, pas partout. Si on prend l'exemple du département de la Gironde, par exemple, effectivement, il y a Bordeaux et autour de Bordeaux, bien sûr, où il y a une richesse. Mais sur le Médoc, justement, à part le reggae sanska, qui est très bien, on s'est battu, en tant que conseiller régional, je me suis battu pour que le reggae sanska revienne sur ce territoire-là. Et parce qu'il faut savoir que la culture, c'est important, parce que la porte, c'est l'émancipation, c'est la citoyenneté, enfin, c'est la construction d'individus. Et pour moi, ça fait partie vraiment des priorités, la culture. Alors que parfois, comme un élu, on a toujours tendance à le considérer que c'est ce qu'on fait à la fin. Pour moi, c'est ce qu'on doit faire en premier, parce que c'est large. Mais derrière la culture, c'est aussi de l'économie. Et donc, il ne faut pas oublier tout ce que ça génère. Un rapport récemment disait qu'en fait, la culture en France avait beaucoup plus d'emplois, par exemple, que l'industrie automobile. Donc ne pas oublier derrière la culture effectivement toute cette filière économique-là. Et donc on s'est battu pour que le reggae sanska revienne avec Fred Lachaise, son directeur bien sûr, lui en premier s'est battu, son président, que revienne sur le Médoc et ainsi amène non seulement de la culture mais aussi de l'économie sur le territoire.
Et de faire des choses comme ça très différentes, très variées, ça vous apporte, j'imagine, énormément. On rencontre des nouvelles personnes, on apprend de nouvelles choses aussi.
Mais on est toujours dans l'humain, comme je disais tout à l'heure. Effectivement, on ne peut pas être infirmier anesthésiste sans aimer les gens, mais on ne peut pas être un élu. Et un élu qui comprend les personnes sans les aimer, c'est pareil. Un élu qui n'aime pas les gens, à mon avis, il ne dure pas longtemps. C'est pas possible. Donc, ou alors il n'est pas ici. Et c'est un élu, effectivement, parfois national, technique, et qui... voilà, c'est pas mon cas. Moi, je suis un élu de terrain. Et donc, effectivement, on aime les gens. Donc, c'est d'une richesse infinie, parce qu'on fait énormément de découvertes.
Énormément de découvertes. Bon, il faut du temps pour ça aussi. On arrive à trouver le temps ?
On le prend, parce qu'on ne trouve jamais le temps. Donc, il faut aller le prendre, parce que sinon, on n'y arrive pas.
Dans toutes les découvertes que vous avez suivies, enfin vous disiez là au niveau du cinéma, de la musique, etc. Il y a eu des choses vraiment incroyables, des grandes et belles surprises.
Ah ben oui, parce que si on prend ne serait-ce que sur la musique, ben, le nombre de festivals qu'il y a en Nouvelle-Aquitaine, je crois qu'on est à plus de 600 festivals dans une année, donc ce qui montre effectivement la richesse d'une région, et en sachant bien qu'encore que parfois sur les festivals, il y en a aussi sur les territoires ruraux, donc dont on a tendance à parler effectivement, ben, qui peuvent être oubliés, mais ben, pas tout le temps, parce qu'il y a des initiatives locales qui sont importantes et que la région soutient. Parce que c'est structurant sur un territoire, et parfois il n'y a que ça, qu'une manifestation culturelle avec toute l'économie qu'il peut y avoir derrière. Donc il y a toute cette richesse-là. La filière musicale aussi, savoir qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a le réseau des indépendants de la musique, le RIM, qui a été constitué sur le précédent mandat régional, toute une filière, et on a 13 ou 14, par exemple, producteurs indépendants en musique, ce qui est très riche, avec plein de groupes, avec plein de programmations, voilà, avec des musiciens, avec plein d'emplois derrière, là aussi. Ce sont des emplois derrière tout ça. On a tout ce qui est art visuel, art contemporain, le cinéma, le théâtre, des festivals de cinéma aussi. Il y en a plein en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc c'est une très grande richesse. Et je peux dire qu'on est régulièrement, effectivement, agréablement surpris par la diversité des acteurs qu'on peut trouver et puis parce qu'ils apportent et le combat qu'ils mènent. Parce que c'est un engagement. C'est pour ça que je dis que tout à l'heure, moi, j'ai un métier et j'ai aussi un engagement. Alors, je suis engagé dans mon métier, mais je suis engagé dans la vie publique et dans mon territoire.
Alors vous parliez de combat, je vais rebondir sur ce mot. Infirmier anesthésiste, on l'a entendu, mais aussi engagé par rapport aux soins thérapeutiques grâce au cannabis. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Écoutez, c'est simple. Moi, j'ai en tant qu'effectivement soignant, infirmier anesthésiste, j'ai pris en charge, comme j'ai dit, en bloc opératoire ou en SAMU, des gens qui avaient des douleurs aiguës, en souffrance, donc on doit calmer assez rapidement, que ce soit en péropératoire, quand on opère des gens, ou en post-opératoire après, parce qu'effectivement, une intervention chirurgicale, ça fait souvent mal. Donc, il faut prendre en charge ces douleurs, que ce soit en SAMU aussi, mais aussi sur des douleurs chroniques. Quand vous êtes atteint d'algodystrophie, quand vous avez de l'arthrose prononcée, quand vous avez effectivement des scléroses en plaques, eh bien, vous souffrez. Mais vous souffrez tous les jours, en permanence. Je n'oublie pas la fibromyalgie aussi, qui est très connue. Voilà, donc c'est tous les jours. Et ça, c'est terrible pour les gens, parce que parfois, on n'a pas les médicaments nécessaires pour pouvoir bien les calmer. Ou parfois, les médicaments qu'on utilise, les opioïdes ou les opiacés, ils calment en même temps, et ils en sucrent. On est complètement abruti, entre guillemets, toute la journée. Voilà, donc c'est un exercice difficile. Et il se trouve que j'ai, moi, suivi des patients, comme ça, en cas de douleur chronique, et qu'un jour, j'avais un patient qui avait une sclérose en plaques et qui m'a dit, moi, j'ai tout arrêté, mes médicaments, et aujourd'hui, je fume un pétard, en gros, le soir et le matin, et ça me suffit. Des fois même un par jour, et non seulement j'ai moins mal, j'ai vraiment moins mal, mais le fait d'avoir ma mal, eh bien, me redonne le moral, il n'est plus en arrêt maladie, il peut reprendre le travail. Donc ça lui redonne une vie sociale. Mmh. Donc quand vous avez un patient comme ça, puis deux, en tant que soignant, vous avez le devoir de vous interroger, parce que c'est pour eux que vous travaillez. Et donc on se dit, mais d'abord on ne juge pas. Moi, la première chose que j'ai dit, j'ai dit, écoutez, si ça vous fait du bien, continuez. Alors maintenant, je cherche à comprendre. Moi, personnellement, je ne suis pas fumeur parce que je suis asthmatique depuis tout petit, donc je ne fume pas. Et puis fumer est dangereux, ça c'est clair et ça le reste. Mais on s'interroge. Donc à l'époque, il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai trouvé très peu de publications médicales. Dans les littératures médicales internationales, j'ai trouvé une publication anglaise qui parlait qu'effectivement le cannabis avait des effets très positifs. La reine d'Angleterre, à un moment donné, Margaret, vous voyez, ça remonte un peu, prenez du cannabis pour soigner ses céphalées et ses règles douloureuses. Et ça marchait. Pourquoi en Angleterre? Parce qu'en fait, eux, ils avaient retenu ça des Indes. Voilà, les Indiens mais qui habitent en Inde et les Chinois utilisent le cannabis avec ses vertus thérapeutiques depuis 3000 ans. Donc, c'est quelque chose de connu, mais qui a été vraiment refoulé, diabolisé en France. Donc, En 2017, il se trouve qu'on a eu en Creuse, et je suis élu de la Creuse, donc une entreprise qui s'appelait GMS, qui allait très mal, qui a perdu, c'est sur 300 emplois, 270 emplois, on en a perdu 150. Et donc c'était un désastre pour nous, pour un territoire comme le nôtre. Il faut savoir qu'il y a 118 000 habitants, donc chaque emploi compte. Et le président Macron à l'époque, parce que les élus, les représentants du personnel, la population, tout le monde s'est battu pour que cette entreprise ne ferme pas. Et on avait été reçu en octobre 2017, à l'Élysée par le président Macron, une vingtaine d'élus de la Creuse, et ils nous avaient dit, écoutez, faites-moi des propositions pour essayer de repeupler la Creuse, mais à travers le développement économique et la création d'emplois. Et là, je me suis dit, bingo, au croisement de mon métier et de mon engagement d'élu, eh bien, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire de la Creuse un territoire, un département où on pourrait planter du cannabis, le transformer à titre expérimental pour voir et ainsi créer de l'emploi. Donc, j'ai fait directement cette proposition au président Macron. C'était en novembre 2017. Et puis, elle a été rendue publique en février 2018. Alors, ça a fait du buzz, c'est clair. Beaucoup de mes élus m'ont dit, mais t'es complètement fou.
Tu t'embarques?
Ouais, voilà, si c'est pas bon pour toi si tu veux te présenter de nouveau à des élections. Enfin bon, bref, moi je pensais absolument pas à moi. Je vois pas l'intérêt en plus de penser à moi. Je suis resté moi-même, et à partir du moment où j'avais effectivement la preuve que ça marchait, parce que quand on vieillit, on a aussi nos amis qui vieillissent. J'ai deux amis, deux potes qui ont une sclérose en plaques et qui se soignent aujourd'hui qu'avec du cannabis. Voilà, mais ils ne le prennent pas de la bonne manière, parce qu'ils le prennent en fumant. Et fumer reste dangereux. Donc il y a plein d'autres manières de pouvoir prendre du cannabis thérapeutique, qui soit sous gouttes, sous huile, sur des space cakes. Enfin, il y a plein d'autres façons qui sont aussi efficaces, ou en inhalation, qu'en fumer. Donc voilà, donc j'ai fait cette proposition-là, d'abord d'un point de vue sanitaire, c'est-à-dire qu'enfin, parce qu'aujourd'hui les patients qui ont des scléroses en plaques ou des maladies neurologiques, spastiques, qui sont très douloureuses et qui se soignent avec du cannabis, eh bien, sont considérés comme des délinquants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison uniquement parce qu'ils utilisaient du cannabis pour se soulager D'accord ? Donc ça, c'est quand même grave. Donc il faut arrêter de stigmatiser ces gens, de diaboliser cette plante. Ils sont malades, donc on a le devoir de s'en occuper. Et que si c'est des molécules de cannabis qui doivent leur faire du bien, eh bien, on doit pouvoir leur prescrire. Donc ça, c'est la première chose.
Vous parliez tout à l'heure de transformer.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez détailler ou préciser ? Parce qu'on a tous autour de nous des jeunes, des ados qui sont un peu tentés par la chose. Quelqu'un qui se soigne, est-ce qu'il prend le même cannabis ?
C'est souvent parce que c'est interdit qu'on est tenté. Mais ça, c'est un autre débat.
Après, ça provoque
un autre
aussi
débat.
Des effets peut-être extraordinaires.
Pour ça que moi, je parle bien que du cannabis thérapeutique. Hein, d'accord ? Je ne suis pas pour une légalisation totale. Même si il faut bien dire qu'en France, on est le pays... le plus sévère en Europe et qu'on est le pays qui consomme le plus. Donc à un moment donné, il faut quand même se poser des questions de l'efficacité des politiques publiques. Oui, plus que l'Hollande. D'accord. Parce que il y a cet effet interdit. Donc il va quand même falloir un jour prendre le sujet sérieusement en main et pas comme le fait Monsieur Darmanin, parce qu'il le fait d'une manière merdique, si je peux dire. Donc voilà.
Assidûment.
Ouais, mais pas de problème, j'assume. Je lui demandais rendez-vous avec lui d'ailleurs, j'attends encore. Il était prêt, mais pas tout de suite.
Pas tout à fait.
Voilà, donc moi, c'est vraiment le cannabis à usage thérapeutique. Et quand j'ai fait cette proposition qui a été rendue en public en 2018, donc ça fait un buzz formidable. D'ailleurs, ça m'a permis de voir la chronologie des médias. Vous savez que ça a commencé dans les médias régionaux, le journal La Montagne, qui est la presse quotidienne régionale chez moi, puis France Bleu, le réseau France Bleu, et puis après, j'ai eu la chance de passer sur Radio Nova avec Edouard Baird un matin. Et donc après Libé, puis après Le Parisien, puis alors après ça a été TF1, France 2, France Inter, etc. Voilà, donc j'ai fait pas mal de médias. Mais c'est important parce qu'en même temps, on a fait beaucoup de pédagogie. Il faut savoir que, par exemple, de la même manière que si vous faites de la course à pied, quand vous faites de la course à pied, au bout d'une demi-heure, vous êtes bien. Pourquoi vous êtes bien ? Parce que vous sécrétez des endorphines, d'accord ? Eh bien, en fait, le cannabis, on a un réseau endocannabinoïde, pareil. Donc, on est sensible aux molécules de cannabis. Voilà, donc, finalement, quelque part, on est fait pour pouvoir recevoir des molécules de cannabis qui... ont un effet, peuvent avoir un effet sur notre corps, et notamment un effet thérapeutique, un effet bien-être. Voilà, donc ça c'est important. Donc on explique tout ça aux gens, et puis après on explique. Il faut savoir que jusque dans les années 70, le cannabis était autorisé. La Creuse, mon département, a été, il y a 100 ans, le premier département producteur de chanvre en France. Il faut savoir que la France a été le deuxième producteur mondial. Il l'est toujours. Alors on est troisième maintenant, parce que le Canada... nous est passé devant depuis qu'ils sont légalisés, mais on produit du chanvre, parce que le chanvre ou le cannabis, c'est la même chose. Après, c'est juste les variétés qui sont différentes, mais on utilise aujourd'hui du chanvre pour isoler sa maison, on fait du textile, on fait des cordes, la corderie royale à Rochefort, c'était du chanvre. On utilise beaucoup aussi pour faire des huiles, des graines. Il faut savoir que les sportifs de haut niveau mangent de plus en plus de graines de chanvre. D'ailleurs, je vous invite, les auditeurs, à en manger. C'est très riche en oméga 6, en oméga 3. Voilà, donc tant qu'à faire, acheter des graines de chanvre ou des graines de cannabis, encore une fois, c'est pareil, mais bio. C'est très riche en protéines, voilà, des bonnes protéines. Donc voilà, il faut arrêter de diaboliser cette plante. Et c'est les Américains qui eux-mêmes l'ont diabolisé dans un arrêt en 1970. Et puis les Américains, c'est comme ça, quand ils interdisent quelque chose chez eux, il faut que tous les autres pays l'interdisent aussi. Donc ils ont fait effectivement après du lobbying pour que les Anglais, les Français, etc., l'Europe l'interdise. Et paradoxalement, la France a été le seul pays à ne pas obéir à ce diktat. Ils ont interdit la partie cannabis, ce qu'on peut dire récréatif, mais pas le chanvre industriel. Et on continue à produire du chanvre industriel en France. Voilà, encore une fois, on est troisième producteur au monde. Et alors que les Américains, ça fait au moins 4-5 ans maintenant qu'ils ont, je crois qu'il y a plus de 32 États qui ont légalisé le cannabis, eh bien nous, on reste encore à la traîne pour légaliser le cannabis thérapeutique. Alors heureusement, face avec ce travail que j'ai mené, alors avec le député de la Creuse, hein, Jean-Baptiste Moron, on était tous les deux, à partir de février 2018, on a fait la tournée du ministère de la Santé. Donc au début, Buzyn, c'était un niet total. Donc on n'a pas lâché, on a continué. On a beaucoup travaillé avec son conseiller technique qui était médecin. Donc là, on s'est parlé franchement, on s'est même engueulé sévèrement au début. Et puis après, parce que je dis, c'est simple, quand t'as un patient en face de toi qui souffre, tu fais quoi ? S'il te dit que le cannabis le soulage, tu lui dis d'aller se faire voir ? C'est pas comme ça. Voilà, donc on a réussi à le convaincre, mais sur des effets scientifiques, hein, et humain. Et puis après, on a été voir le cabinet du Premier ministre, et c'est comme ça qu'on a obtenu que l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, mette en place un comité scientifique qui a été présidé et qui est toujours présidé par le professeur Nicolas Autier, qui est un professeur du CHU de Clermont, avec une seule question: le cannabis peut-il avoir des effets thérapeutiques, oui ou non? Donc ils ont eu 6 mois pour travailler, ils ont conclu par oui, et après l'ANSM leur a demandé de dire, ben voilà, comment on le prescrit, comment on fait, comment on le distribue, parce que c'est important, réseau de distribution, encore une fois, on est dans du médicament, hein, donc d'où la transformation, parce que il y a ce qu'on peut appeler le cannabis bien-être. Donc là, ça peut être la fleur, mais pour du médicament, eh bien, on le transforme. C'est-à-dire qu'on extrait de la fleur les molécules, et à un médicament, ça doit toujours être stable. Parce que si je vous fais une prescription, il faut que celui que vous prenez le lundi, le mardi, le mercredi ou le jeudi, que ce soit le soir ou le matin, ait toujours le même dosage. Donc, ce qui n'est pas le cas en fonction des fleurs ou du bien-être. Il peut y avoir des dosages qui varient. Donc on est vraiment dans des médicaments, ça doit respecter des règles très strictes. Voilà pourquoi je parle de transformation. On a un labo pharmaceutique en Creuse, à Guéret, et qui est prêt à faire cette transformation-là. Voilà. Donc, c'est aussi derrière tout ça la création d'emplois. Donc, on a mené ce travail et c'est comme ça qu'on a obtenu, après l'expérimentation thérapeutique, il y a aujourd'hui en France, enfin, une expérimentation thérapeutique auprès de 3000 patients qui est menée, qui sera évaluée. Et après, nous espérons bien que ça soit complètement légalisé pour 5 pathologies différentes, dont la sclérose en plaques notamment, mais pas que. Et puis après, on se bat, et les agriculteurs se battent aussi, parce que ça peut être une filière agricole industrielle. En Creuse, j'ai des agriculteurs qui peuvent travailler 60-70 heures par semaine pour 600 euros par mois. Donc est-ce que ça peut durer encore longtemps, comme ça ? Donc on se doit, effectivement, de s'occuper d'eux, et ça peut tout à fait être une filière de diversification pour eux, de produire du cannabis bien-être. Et d'ailleurs, un agriculteur que Zoa a commencé, il s'appelle Joigny Chatou, c'est la ferme bio de Prigerolles, et lui, il plante, il transforme, alors que c'est illégal encore en France, mais il le fait, tant pis, et il a raison de le faire. Et vous pouvez trouver des tisanes, vous pouvez trouver de l'huile, vous pouvez trouver des fleurs complètes de chanvre qui viennent de chez lui, et c'est du bio en plus. Voilà.
Et ça se trouve où ?
Ça se trouve sur le plateau de Mille Vaches, à Gensioux, dans la Creuse.
D'accord. Et les gens qui seraient de Bordeaux, par exemple, comment est-ce qu'ils font pour...
C'est très simple, il y a un site internet, on appelle. Alors, après, ils vendent pas mal, effectivement. Mm-hmm. C'est, je crois, aujourd'hui, un des plus gros producteurs, mais avec une économie très faible. Parce que du jour au lendemain, comme il s'est passé dernièrement, la France a interdit la transformation de la fleur. Oui. De nouveau. Alors, c'était déjà interdit, puis ça a été de nouveau autorisé, puis après interdit. Et là, la Cour de cassation a cassé ça. Parce qu'à partir du moment où on considère... Le cannabis bien-être, c'est plutôt le CBD, hein, on va dire, c'est essentiellement autour de cette molécule-là.
Oui, c'est une tendance très à la mode.
Voilà, et l'ONU a dit que ce n'était pas une drogue, et donc la France ne pouvait pas utiliser la législation des produits qu'on appelle drogue pour interdire le CBD. Donc il peut de nouveau transformer chez lui. Mais bon, ça, on reste sur quelque chose d'instable, parce qu'aujourd'hui, pour des arguments politiciens, le ministre de l'Intérieur... durci, parce qu'il faut bien récupérer les voix d'une Front National pour la future présidentielle, et donc on est dans un débat complètement tronqué. Voilà, donc on continue, on ne va pas lâcher par rapport à ça, parce qu'on doit pouvoir aujourd'hui vendre du CBD de manière tranquille. À Bordeaux, il y a pas mal de magasins, et pas qu'à Bordeaux, il y en a partout. Oui. Ça se développe pas mal, mais moi je connais pas mal de personnes, y compris des personnes âgées, qui le soir vont prendre 5 gouttes d'huile de CBD, et ça fait autant d'effet qu'une benzodiazépine, tout en n'ayant pas d'effet secondaire. Pourquoi s'en priver ?
Bon, bah écoutez, à bon entendeur, salut.
Voilà.
Donc, vous disiez engagement, vous êtes un homme engagé,
ouais.
Contestable.
Oui.
Vous parliez des autres, vous parliez d'altruisme, etc. C'est important, c'est des valeurs que vous... faites partager aux vôtres. Vous avez des enfants, j'imagine.
Oui, j'ai 2 enfants, un qui est médecin, médecin anesthésiste, réanimateur aussi, donc qui connaît bien ce sujet, sur tout ce qui est axé notamment sur la douleur, et puis une fille qui est artiste, voilà, qui fait les beaux-arts, les arts supérieurs, donc vous voyez qu'on peut avoir des enfants qui peuvent être complètement différents, mais en tous les cas... Heureusement qu'ils sont différents, mais ils portent les mêmes valeurs, oui. L'humanisme et l'humain, c'est pour ça que ce qui se passe aussi en ce moment en Ukraine, et j'en profite pour saluer ce peuple qui se bat et qui est admirable, voilà, donc ça serait bien de remettre l'humain au cœur des préoccupations, ça c'est clair.
Après tout ce qu'on voit, enfin oui, c'est hallucinant. Je vois les enfants aussi suivent aussi cette guerre. Enfin,
bien sûr. Mais les enfants sont pas. Les enfants ne sont pas idiots, ils comprennent vite ce qui se passe. Ils peuvent voir, alors que ce soit les enfants d'Ukraine, malheureusement, eux, ils sont en première loge pour comprendre ce qui se passe. Et puis aussi chez nous, il faut leur expliquer ce que c'est, ce qui se passe qu'au XXIe siècle, alors qu'on pensait des guerres qui, ayant totalement disparu d'Europe, eh bien, elles sont à nos portes, parce que même si l'Ukraine n'est pas dans la communauté européenne, ils vivent comme nous, c'est une démocratie, donc avec effectivement une majorité, des oppositions, une liberté de parole, voilà, mais où l'humain a été respecté. Or, on a face à nous un homme dictateur, mais fou, je ne sais pas si on peut le qualifier de fou, c'est difficile, parce qu'en fait, il obéit à un dessein avec la Grande Russie, enfin, c'est quand même assez compliqué, mais que, en tous les cas, compliqué à expliquer pourquoi on en est là, mais malheureusement, c'est une déception terrible, parce qu'on se pensait à l'abri de tout ça. Oui. Mes grands-parents ont vécu, j'ai perdu de la famille, y compris dans l'horreur des camps. Comment on peut s'imaginer que ça soit de nouveau possible? Alors, on n'oublie pas d'autres conflits récents, on n'oublie pas la Syrie, parce que il n'y a pas de pays qui serait supérieur à d'autres, ou d'humains qui seraient supérieurs à d'autres, c'est pour tout le monde. La guerre en Syrie a été d'une violence terrible aussi. Alors, dit par Poutine et sa milice, Wagner, il y a aussi des guerres en Afrique ou ailleurs, mais celle-ci, elle est à nos portes. Et c'est pour ça peut-être que ça nous touche plus que les autres.
Oui, c'est un peu la réalité qui nous claque au visage.
Oui, c'est une réalité qui nous claque au visage. Alors, il faut quand même continuer à vivre, parce qu'il y a aussi des gens sur nous dont il faut s'occuper, bien sûr, et on s'en occupe. Mais il ne faut pas oublier les autres non plus.
Mm-hmm. Très bien. Bah, écoutez, Eric, moi, j'étais ravie de vous recevoir dans
moi
mon
aussi.
Émission, puisque vous étiez un petit peu loin, mais finalement, le hasard des rencontres ou de la vie a fait que vous étiez... en Gironde, pas très loin
oui,
d'ici.
Et puis j'aime bien les radios associatives aussi, parce que ce sont des radios qui traitent aussi des sujets de la vie des gens. Donc voilà, c'est important.
Bien, écoutez, j'espère que vous qui nous avez écoutés, vous avez passé un excellent moment. Je souhaite pardon, à tous un excellent week-end. Et puis écoutez, Eric, bon retour à vous
merci.
Aussi.
Excellent week-end
également
à tout le monde.
Dans votre contrée.
Ouais.
Et merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.